Alors, Pierre-Yves, quand on se retrouve dans une situation de surendettement et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, c'est pas seulement la faillite qui est proposée. Il peut y avoir une consolidation de dette ou une proposition de consommateur sans que, pour autant, on fasse faillite.
Oui, la consolidation de dette, faut faire très rapidement parce que la banque va accepter de prendre toutes vos dettes, les mettre ensemble, sauf la dette hypothécaire, et vous créez un paiement mensuel unique avec un taux variable qui est ou un taux moyen pondéré, si vous voulez, qui va être inférieur à votre taux le plus élevé. Donc, ça peut être rentable. Le problème, c'est que souvent, les gens attendent trop tard, une fois que leur score de crédit est un peu, disons, magané, et là, la banque ne veut plus faire la consolidation de dette. Donc, on se tourne vers la proposition consommateur, c'est-à-dire, vous êtes noyé dans les dépenses, vos dépenses dépassent vos revenus. Vous avez une saisie de salaire. Vous êtes juste capable de faire le paiement minimum sur les intérêts et les frais d'administration sur vos dettes. Vous êtes étouffé par vos créanciers qui vous pressent de les rembourser. Vous avez des appels de compagnies de recouvrement. Puis vos dettes fiscales sont importantes. Puis tu es toujours en train de prendre des arrangements avec le gouvernement pour l'année suivante parce que tu payes ton impôt de travail autonome l'année suivante. Bon, ça donne une idée. Donc, si on est rendu là, on a la proposition de consommateur qui est dans le fond, un, il n'y aura plus d'intérêt sur vos dettes. On va aller voir un syndic qui va stopper l'intérêt cumulé sur vos dettes. Vous allez conserver vos biens, c'est-à-dire maison, véhicule, le REER, le régime enregistré d'épargne étude, l'ameublement. Mais vous allez entrer dans un processus où le consommateur va suspendre la saisie de salaire ou autre procédure, mais on va calculer un paiement sur 5 ans, donc maximum 60 mois, en fonction de votre capacité de payer. On va se revirer vers vos créanciers et on va leur dire, acceptez-vous par exemple que Pierre-Yves McSween vous paye 30 cents d'ampiasse de dette, sinon vous pouvez le mettre en faillite, mais si vous le mettez en faillite, vous récupérez probablement, et là on fait un calcul, disons 10 cents d'ampiasse. Donc les créanciers disent, ouais, on n'est pas fou plus qu'un autre, on va accepter ce genre de proposition-là, potentiellement, à moins qu'ils soient vraiment fâchés contre vous. Et il y aura ce genre de choses-là. Donc, vous paierez sur 60 mois un montant fixe, incluant tous les frais.
OK. Est-ce que au bout de 5 ans, avec des versements mensuels, 60 mois, tu es complètement libéré de cette situation inconfortable?
Sauf des dettes qui sont pas libérables. Tu sais, comme par exemple, tu sais, des dettes comme les pensions alimentaires, certaines contraventions, des dettes frauduleuses, si vous avez fraudé quelqu'un, évidemment. Donc, toutes les dettes d'études, par exemple, si tu as faillite ou bien la proposition du consommateur est faite en dents de 7 ans, tu ne peux pas te libérer de dettes d'études, tu sais. Donc, ce sont des exemples. Mais c'est juste avant la faillite, dans le fond. C'est-à-dire, avant de faire faillite, je vais essayer de faire une proposition à mes créanciers. Puis parfois, ils acceptent. Donc, toujours bon d'aller voir un syndic. La première consultation est totalement gratuite.
Et dernière question, là, tu peux consolider ça avec un taux d'intérêt normal. Donc, avis à ceux et celles qui sont pris à la gorge avec les cartes de crédit, où là, le taux d'intérêt n'est pas le même du tout.
Donc, 20%, mais tu vois, la consolidation de dette, vous pouvez probablement négocier du 13 ou du 14, ça semble élevé, mais si votre carte de crédit est à 17, 18, 19, 20 et qu'en plus les intérêts se cumulent, au moins avec la proposition avec la consolidation, vous payez moins cher et la proposition de consommateur, vous stoppez les intérêts, mais vous avez des créanciers. Évidemment, après ça, ce sera pas facile, vous n'aurez pas un crédit complètement vierge pour l'instant, mais dites-vous que c'est ça ou la faillite d'habitude, donc on est peut-être mieux de faire ça.
D'accord. McDonald's continue l'orientation vers les franchises.
Mais on parle pas d'être honnête, on parle de franchise, du genre franchiser ses restaurants. Parce que McDonald's, à une certaine période, a beaucoup opté pour des magasins ou des restaurants corporatifs, c'est-à-dire gérés par McDonald's, avec des gérants engagés par McDonald's. Et là, on a dit au bout d'une couple d'années, attendez une minute, là. On est bien mieux de continuer à être une compagnie de location d'immeubles, de trouver des franchisés, de leur louer tout ça ou de leur laisser être franchisés de nos franchises et leur laisser une bonne partie du risque et juste opérer la marque McDonald's, le service d'approvisionnement, le menu. Donc, finalement, opérer comme un franchiseur. Et dans les états financiers du troisième trimestre qui viennent d'être publiés, ça se reflète. Les ventes pour les magasins corporatifs ou les restaurants corporatifs sont en baisse. Pourquoi? Bon, on les transfère à des ventes dans les magasins franchisés. Donc, on transfère vers la franchise. On veut plus avoir cette obligation-là. On veut retourner au maximum vers les franchises et devenir quelqu'un qui s'occupe de la marque. Donc, de faire la promotion de Coca-Cola, de faire la promotion de processus, d'avoir un menu, d'avoir une marque, d'aller chercher des redevances, des droits, des revenus de loyer, mais quitter l'opérationnel et le risque d'affaires et le transférer au franchisé. Et ça, c'est le modèle d'affaires d'un franchiseur tel quel. Donc, McDonald's, c'est ce qu'on veut. Et ça aide beaucoup l'action qui monte de 6% aujourd'hui. Et si on regarde historiquement l'action, là, si on retourne en janvier 2018, là, on était à 178$, on avait baissé, et là, on retourne dans le 176-177$. Donc, on voit que McDonald's, sur un an, donne 8%, mais surtout que l'action recommence à être à la hausse avec cet engouement-là vers les franchises.
Et terminons rapidement avec les dépenses des Canadiens. Cette fois, c'est un rapport qui parle de l'évolution des habitudes des consommateurs canadiens.
Oui, parce qu'évidemment, Moneris, c'est une compagnie évidemment qui fait de la promotion de son propre produit. Donc, on parle des transactions numériques, c'est-à-dire débit et crédit par les machines. Donc, une augmentation de 3,4% des dépenses quand même. Bol. Et si tu sais quoi, la dépense qui a eu la plus grosse augmentation, c'est la maison et les vêtements. Suit le restaurant et l'épicerie et la pharmacie, donc ensemble. Donc, tu vois que les gens augmentent, surtout au Québec. Là. Dans le rapport, on voit très bien que le Québec, surtout, a été une des provinces canadiennes où il y a eu le plus grand nombre d'augmentations de dépenses en pourcentage. Et 43% des dépenses, Paul, 43% des dépenses par carte sont faites avec sans contact. C'est-à-dire que tu mets ta carte devant là, la petite machine et tu transiges. Donc, c'est de plus en plus rapide et rapide. Et vu que c'est une plafonnée à 100$, c'est ce qui explique pourquoi on ne fait pas plus de transactions que ça par le touch.
Merci beaucoup, Pierre-Yves, et salut. À demain.